Je suis particulièrement heureuse de vous accueillir cet après-midi pour ce colloque organisé donc conjointement par l'Université de Paris 8 et par les archives nationales sur les rues fantômes d'Hiroshima. En cette cinquième édition de la Semaine des Arts, c'était une trop belle occasion que de tenir un événement d'envergure qui, en quelque sorte, jouait le rôle de clôture de l'exposition que nous présentons maintenant depuis 3 mois et demi sur ce site de Pierrefitte, Ibakusha, tout en élargissant le propos, puisque fidèle aux enjeux pluridisciplinaires de cette semaine de l'art, sont convoqués, vous l'avez vu au programme de ce colloque, la poésie, la danse et le cinéma. Après avoir quitté Carcassonne, le centre Jouet-Bousquet, en octobre dernier, l'exposition Ibakusha, dessin des survivants d'Hiroshima et Nagasaki, est présentée donc à Pierrefitte depuis mi-décembre, comme je vous le disais, et va fermer ses portes à la fin de cette semaine-là, mais pour revivre sous une autre forme au Musée de la Résistance de Grenoble sous une version réduite et avec encore ensuite d'autres potentiels pour la continuation de ce beau projet. Et donc on est particulièrement fiers et heureux, nous Archives Nationales, que d'avoir contribué à faire connaître ce patrimoine unique, ce patrimoine lointain et jusque-là, finalement, paradoxalement, quasiment inconnu des Français et des Européens. Et au vernissage de l'exposition, la présence de Monsieur l'ambassadeur du Japon disait tout le prix qu'attachait le Japon à ce que cette dissémination vers comme ça un pays européen vers la France puisse se faire ainsi. Donc sur une initiative de Bernard Esmin, relayée avec enthousiasme par René Pignès et le centre Jouet-Bousquet, nous nous sommes donc lancés dans une aventure peu commune qui était celle d'exposer les dessins, ou du moins les représentations, de ce qui était conservé au Japon, une petite partie bien évidemment, conservée dans les collections du Memorial Museum de la Paix d'Hiroshima et du Musée de la Bombe de Nagasaki. Et en assurer, c'était ça qui était très important à nos yeux, en assurer la médiation auprès de tous nos publics, et avec un résultat qui aujourd'hui est un beau résultat, puisque en fait nous avons pu présenter et faire vivre cette exposition auprès de plus de 3000 visiteurs, avec également un beau succès pour le catalogue très remarquable qui accompagnait cette exposition, et surtout un travail pédagogique très approfondi et très riche, depuis les ateliers de bande dessinée avec l'illustrateur de Teddy Bellino, jusqu'à, encore ce samedi, les projections du film d'animation Dans un recoin de ce monde de Suano Katabushi. Il était là donc samedi dernier et il a expliqué tout le travail sensible et rigoureux d'historien des rues et des familles d'Hiroshima qui a été son travail pour produire cette belle œuvre. Et si elle se confirme, nous aurons encore une suite ici à cette exposition avec la venue, peut-être en septembre, d'une Ibakusha qui viendra livrer son témoignage et qui sera évidemment un moment très très fort. Pour terminer, je voudrais rappeler notre attachement à notre partenariat très riche. C'est bien à moindre des choses en étant à 50 mètres les uns des autres avec l'Université de Paris 8. Plusieurs partenariats jusqu'à cette semaine donc des arts durant laquelle nous avons accueilli deux projets artistiques, celui de Claude Chabot et son musée du théâtre qui avait déjà été accueilli ici lors des dernières journées européennes du patrimoine, et l'accueil du chorégraphe et danseur Yvan Alexandre et de l'écrivain Sylvain Patieu dans le cadre du festival Concordance. Et puis, dans quelques semaines, le 24 mai très précisément, va s'ouvrir le second volet de notre exposition sur mai 68, les archives du pouvoir, les voies de la contestation, sur le site de Pierre Fitte, qui sera aussi en contrepoint de tout ce qui va suivre comme manifestation dans le cadre du 50e anniversaire de l'Université de Paris 8, avec là aussi de belles collaborations en perspective. Donc je vous souhaite un très beau colloque aujourd'hui, avec des échanges scientifiques de haut niveau qui rentreront en résonance, et c'est tout l'intérêt, avec les artistes pour incarner la mémoire des Ibakusha qui nous occupent tous cet après-midi. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Madame la Directrice, pour votre accueil, pour ces possibilités qui nous sont données de travailler ensemble, qui effectivement nous oblige aussi à sortir des cadres dans lesquels nous avons l'habitude de travailler. Alors, juste, je vais dire deux, trois mots sur comment s'est constituée un peu cette collaboration, puisque c'est effectivement à partir de l'exposition qui avait été montée en lien avec les archives et le Centre Jouvet Bousquet, par Bernard Esmin, qui, du fait de son passé de professeur de philosophie, a contacté des collègues avec qui il avait été à l'école normale, qui étaient de mes collègues ici, présents, et c'est comme ça que la connexion s'est faite. Et il se trouve que la chose, l'exposition ici, Bakusha, s'arrêtait au moment où se tenait la Semaine des Arts, avec un thème cette année qui était la rue, avec beaucoup d'indétermination dans le thème, pour le laisser ouvert, effectivement, à toutes les disciplines, à toutes les problématiques. Mais, dès qu'on en a parlé, il a semblé que cette exposition, les questions posées par la destruction d'Hiroshima, de Nagasaki, puis on le verra dans la table ronde à la fin de cette journée, dans toutes ces destructions, la question de la rue, de ce lieu entre espace commun, espace public, limitation des espaces privés, qui paradoxalement reste en trace après la destruction. Il faut détruire les ruines et détruire les traces de la rue pour reconstruire. Il nous a semblé que c'était intéressant d'associer cette exposition et d'en faire un objet de discussion entre nous, si possible, avec effectivement des croisements de disciplines. En plus, nous disposions à l'Université Paris 8 de plusieurs collègues en danse, en cinéma, en musique, qui étaient directement intéressés, ce qui a permis de monter cet après-midi. Alors, c'est vrai qu'on a un peu hésité avec Bernard et Sylviane sur des thèmes où est-ce qu'on tirait beaucoup plus sur la question, par exemple, de... est-ce qu'on l'étendait à d'autres destructions? On pouvait penser à Dresde, au Havre, à d'autres encore aujourd'hui. Dieu sait que des villes détruites dans le Moyen-Orient, il n'en manque pas aujourd'hui, et que ces questions-là, elles sont ô combien contemporaines. Mais on a quand même voulu rester sur cette exposition et essayer simplement d'aller après d'en débattre. Alors, j'ai dit que je ne retirais que quelques mots, donc comme... je vais plutôt laisser la parole à quelqu'un de plus malin que moi. Donc je voudrais citer le début d'un texte d'un des rares philosophes qui se soit vraiment mobilisé, disons, qui ait repris cette question d'Hiroshima pour en faire un axe central de sa pensée. Il s'agit de Günther Anders. Il se trouve aussi qu'au premier semestre, je faisais cours sur Günther Anders et que ça a été un des liens entre nous. Donc c'est le début de son texte « Le temps de la fin ». Il ne peut pas être question de dire que nous sommes psychologiquement devenus de nouveaux hommes depuis 1945, que nous avons subi une transformation intérieure à cause de l'événement Hiroshima. Là où une telle transformation deviendrait visible, elle resterait de toute façon insignifiante. La nommer d'un même souffle, en même temps que les modifications psychologiques évidentes qui résultent de notre commerce quotidien, avec des instruments comme la voiture ou le téléviseur, serait absurde. Il vaut mieux considérer que le nouveau phénomène qui s'est abattu sur nous semble, jusqu'à présent, à peine nous concerner et que nous avons négligé de tenir compte du monde modifié dans lequel nous sommes maintenant transplantés et de nous modifier à notre tour. Bref, Notre obsolescence psychique est aujourd'hui notre défaut par excellence. Nous sommes pourtant autres. Nous sommes des êtres d'un nouveau genre. Des événements de la taille d'Hiroshima n'attendent pas de savoir si nous voulons bien condescendre à les envisager et à nous mesurer avec eux. Ce sont eux qui décident qui est transformé. D'où la question, qu'est-ce que l'événement Hiroshima a transformé en nous? Notre statut métaphysique. Dans quelle mesure l'a-t-il transformé? Jusqu'en 1945, nous n'avons tenu qu'un second rôle dans une pièce sans fin, dans une pièce dont nous ne sommes du moins pas cassé la tête pour savoir si elle avait ou non une fin. La pièce dans laquelle nous jouons désormais, des hommes sans puissance, est elle-même devenue secondaire, d'une façon non imagée. Maintenant, jusqu'en 1945, nous n'avons été que les membres mortels d'un genre conçu comme intemporel, d'un genre face auquel nous ne sommes du moins jamais posés, nous ne nous sommes jamais du moins posés la question « Est-il mortel ou immortel ?» Maintenant, nous appartenons à un genre qui, en tant que tel, est mortel. Mortel, il est inutile de dissimuler cette distinction, non pas au sens d'un devoir mourir, mais au sens d'un pouvoir mourir. Nous sommes passés du rang de genre des mortels à celui de genre mortel. Une véritable révolution. Une révolution qui est encore plus profonde que celle qu'on tenait jusqu'à présent pour la plus profonde, à savoir celle que nos ancêtres ont dû vivre avec l'écroulement de leur image géocentrique du monde vieille de plusieurs milliers d'années. Günther Anders a effectivement produit une philosophie. Il raconte qu'avant la guerre, il avait une philosophie tournée sur l'homme sans monde, autour des exclusions. Je rappelle que Günther Anders a quitté l'Allemagne en 1933. Et à partir d'Auschwitz, qui est l'excroissance de la rationalité économique pour lui, qui donc termine un monde, Hiroshima introduit un nouveau monde qui est un monde sans homme. Il le dit, tous ces concepts qu'il a pu inventer, sur lesquels il a pu travailler, comme le supraluminaire, l'impossibilité de percevoir les choses qui sont trop grandes, au contraire de l'infraluminaire, que ce soit l'obsolescence, tous les concepts sur lesquels elle a travaillé, sont des concepts qui sont dérivés de l'événement Hiroshima. Et l'une des questions qu'il pose à la philosophie, notamment à Heidegger, c'est quelle serait une philosophie qui ne pose pas cette question-là? Comment peut-on faire de la philosophie sans se poser la question d'Hiroshima? Et une question, je rappelle que Günther Anders est mort 3 ans avant que le terme d'anthropocène apparaisse dans l'histoire des idées. Il est mort en 92, la première occurrence de l'anthropocène, c'est 95. De fait, il pose déjà cette question et il fait d'Hiroshima l'introduction de ça, la possible destruction du genre humain. Il a une phrase extrêmement belle, il dit « Nous construisons aujourd'hui la possibilité d'un monde sans hommes où plus personne ne sera en mesure de poser la question, d'affirmer plutôt « Il était une fois ». Il n'y aura plus de compteur, il n'y aura plus de temps. » Et donc, c'est aussi de ça dont parle l'exposition que nous allons voir. Alors, je vais céder la parole tout de suite, parce qu'après ces paroles, je n'ai plus rien à dire, à Bernard Esmin, qui est donc le commissaire scientifique de l'exposition Ibakusha, qui est vraiment, disons-le franchement, celui sans qui nous ne serions pas ici aujourd'hui. Je crois que ça, c'est... personne ne pourra le contester. Merci encore pour nous avoir fait connaître toutes ces choses extrêmement importantes et qui ont, et c'est l'une des grandes vertus de cette exposition aussi, ce caractère terrifiant d'être belle parfois. Bernard.
Oui. Comment est-ce qu'on supprime ça? Voilà.
Diaporama en haut.
Je remercie d'abord Madame Bannaberger et puis Guylain Brunel de nous donner l'occasion de mener ce colloque. Et également Éric Le Cerf et puis Sylviane Pagès pour la collaboration constructive qu'on a eue pour le mener à bien. Une amie me disait que, par leur force de témoignage, les dessins des Hibakusha remettent les choses à hauteur d'homme. On descend dans les rues détruites, au milieu des gens ordinaires, frappés par la bombe, on passe du ciel au niveau zéro. Cela change le sens de ce qui est montré et la manière de le montrer. En termes de transmission aussi, cela change les choses. Les dessins contiennent une sorte d'énigme soulignée par les commentateurs américains. Pour John Hersey, ils sont très émouvants, plus émouvants qu'aucun livre de photos d'horreur, parce qu'ils ont enregistré ce qui avait brûlé dans l'esprit des survivants. Comment un médium comme le dessin peut-il transmettre mieux que la photo ? En 1980, John Dover reprend cette idée. Ces dessins de survivants, dit-il, allant de la naïveté à l'adresse technique, ces pauvres dessins sont infiniment variés et incomparablement intimes. Ces peintures ont des voix, elles amènent le lecteur au-dedans. La question ressemble à celle que pose le film de Riti Pan, l'image manquante. Comment des statuettes en terre, glaise, peuvent-elles remplacer la photo, mieux faire comprendre l'histoire des Khmer rouges ? Comment de pauvres dessins font-ils comprendre l'expérience des Hibakusha ? Donnent-ils à voir ce qui n'apparaît pas dans les images d'habitude, avec un sentiment de jamais vu ? À quoi cela tient-il ? Est-ce une question de médium ? Cela pose des questions intéressantes sur le rôle des images dans la transmission et l'histoire de la mise en image de ces événements. Chaque conflit a sa propre histoire de mise en image. Cela concerne l'existence et l'abondance ou non des images l'illustrant, qui est différent par exemple dans le cas d'Hiroshima, des camps nazis ou du Cambodge, et aussi la manière dont, lorsqu'elles viennent à manquer, on n'hésite pas à passer d'un type d'image à l'autre, de la photo au dessin, ou à l'animation par statuette de glaise, ou encore à la bande dessinée dont les personnages sont des souris. Et cela pour tenter de transmettre malgré tout, comme dirait Georges Didier Huberman. Le changement de médium a une incidence sur la transmission, car toutes sortes d'images ne rendent pas la souffrance également partageable. Tout dépend de sa nature. La photo est plus distanciée, la bande dessinée plus intimiste, par exemple. On parle trop souvent du réalisme de l'image, de sa valeur indicielle, c'est-à-dire d'empreinte de la réalité, là où le spectateur accepte très bien la maladresse, l'ellipse. Et ce qui compte avant tout dans une transmission par l'image, n'est-ce pas, pour le dire avec les mots de Hoe Kenzaburo, qu'elle donne à imaginer ? À quoi tient cette faculté ? Alors, l'histoire d'Hiroshima et Nagasaki est d'abord marquée par la rareté des photos. Beaucoup de clichés pris le jour même sont irradiés. Il en reste seulement 5 du 6 août 45 à Hiroshima et un seul à Nagasaki. Beaucoup sont donc dans l'après-coup par rapport aux événements. La dimension historique et humaine du 6 août et du 9 août a disparu des images. Terribles, peut-être surtout parce qu'elles sont déshumanisées. De plus, leur histoire est complexe à cause de la censure américaine. Si le Cambodge a été marqué par l'image manquante, Hiroshima et Nagasaki ont été marquées, elles, par l'image fantôme. Le documentaire le montre bien. Missionné par la compagnie Nichi-Hei, le réalisateur Iwasaki Akira tourne des images destinées à alerter l'opinion publique et la Croix-Rouge et n'hésite pas à filmer de la façon la plus neutre possible les ruines et les blessés. Ces images sont souvent introuvables. La censure américaine les confisque pour en faire paradoxalement un film scientifique destiné à l'armée, intitulé « The Effects of the Atomic Bomb » et restitué au compte-gouttes après 52, les Japonais doivent lancer la souscription des 10 pieds en 1980 pour racheter aux archives nationales américaines 31 km de pellicule dont Hani Susumu tire en 1982 le film Prophétie. Alors on appelle quelquefois ces premières images les images fantômes, Maboroshi, car on les trouve clandestinement dans de nombreux films, peintures ou dessins. Elles marquent par leur absence, hantent et restent une référence inconsciente décisive. Si la suppression de ce film avait réussi, dit Abbé Mark Nornes, chaque autre film sur les bombardements serait différent. Ces images ont marqué par l'excès de souci de vérité qui est en elles. Dans leur objet même, les effets d'une arme créée par la science, par leur destinataire, les médecins de la Croix-Rouge. Excusez-moi, j'ai sauté cette image qui est justement l'une des rares photos, c'est pas, qui subsiste du 6 août 1945. Donc elles ont marqué par l'excès de souci qui est en elle, l'excès de vérité qui est en elle, dans leur objet même, les effets d'une arme créée par la science, par leur destinataire, les médecins de la Croix-Rouge qu'il faut alerter, et par le choix d'une neutralité photographique qui est proche des archives des camps nazis. Le regard est orienté vers la science, l'horreur et l'inconnu. Les photographes ont raconté leur peur d'être irradiés lors du tournage. Cela résonne comme la phrase de Camus le 8 août 1945 « La civilisation mécanique vient de parvenir à son dernier degré de sauvagerie ». Ces images pèsent par leur absence due à la censure, mais donnent le ton en tant que fantômes. Elles amènent les premiers films japonais, parfois avec lourdeur, dans le sens de la reconstitution. Voilà une photo également tirée, n'est-ce pas, du reportage d'Iwasaki. Ces photos, justement, dont je dis qu'elles ont ce caractère scientifique. Et voici une image du film de reconstitution de Sekigawa Hideo, Hiroshima, en 1953. Alors, cette reconstitution, le peu d'images disponibles, le désir d'échapper à la neutralité mortifère, le refus de la reconstitution explique le chemin qu'a pris Hiroshima, mon amour. Mais ce film, aussi beau soit-il, investit aussi celui où l'événement devient inimaginable. Ce qui pose problème par rapport à la transmission, car il y a des hibakusha. Mais il y a d'autres manières de sortir du cercle de l'inconnu, de la science et de l'horreur, et de remettre tout ça à hauteur d'homme. En 1974 et en 2002, la télévision national NHK lance des appels aux témoignages par le dessin. Alors, il est significatif que ce soit une chaîne de télévision qui les ait initiés et qu'elle ait réalisé des films documentaires où alternent dessins et témoignages. Ils prennent en quelque sorte la place de la photo, car même si ce sont des images du temps long, elles présentent ce paradoxe d'être dans l'événement lui-même, là où la photo n'a pas réussi à être, et de donner à voir ce qui n'est jamais dans les photos, les souvenirs, le sang, les corps, la couleur. Ainsi, Dover estime que si l'on compare les photos aux dessins, ces derniers sont les plus puissants, ou puissants d'une toute autre façon. À quoi tient cette puissance et où est la différence? La photo de guerre garde un caractère distancié et anonyme. Distancié parce que prise par un observateur qui n'a pas expérimenté lui-même ce qu'il montre. Anonyme parce qu'elle enregistre en tierce personne, ce qui arrive à des victimes qui sont des inconnus. De plus, la photo est ambiguë, voire manipulable. Justement, le documentaire d'Iwasaki le montre parfaitement. Réalisé à l'origine pour alerter la Croix-Rouge, il sert ensuite à informer l'US Army. Alors, Excusez-moi. J'espérais pouvoir accéder. Voilà. On y est.
C'est bon.
Évidemment, les photos peuvent parfois se mettre à parler, mais il faut pour ça les y aider. Voici un exemple. Vous voyez cette photo que je vous ai montrée tout à l'heure, qui est une des rares photographies prises le 6 août 45 par Matsushige Yoshito. Pour le 70e anniversaire, la NHK a essayé de retrouver les gens qui figurent sur cette photo. Est-ce qu'il y aurait des survivants ? Ils en ont trouvé 6. Et ils les ont interviewés pour savoir ce qui se passait à ce moment-là, précisément. Alors, ils ont expliqué. Par exemple, voilà une personne qui avait 6 ans, ou un peu plus, entre peut-être 8 ans, en A. Va-t-on avoir l'image ? Bon, attendez. On va peut-être y arriver quand même. On va essayer un autre personnage. On va essayer celui-ci. Ah, pas plus. Mais écoutez, désolé, parce que ça ne marche. Ça n'a pas l'air de marcher. En gros, si vous voulez, vous obtenez à partir de la photo une animation qui est assez curieuse parce qu'elle est en image de synthèse, qui explique ce que chacun des témoins raconte sur ce qui se passait précisément à ce moment-là. Désolé que je n'arrive pas à le capter. Non, ce plugin.
Attendez, si c'est activé.
J'active.
Active en dessous. Non, comme ça.
Ici ?
Non. Non. Il faut revenir en arrière. Voilà. Activer.
Ah, c'est un problème.
Accepter. Activer maintenant. Activer.
Activer maintenant.
Oui. Voilà. Normalement, ça va aller. Donc là, maintenant, il faut faire play.
Voilà. La mise. Alors, ce sont des images de synthèse, n'est-ce pas ?
À partir de ce.
Oui. Et là, le. Bon, en gros, c'est un soldat qui explique qu'ils étaient en train de ramasser des corps. Bon. Voilà pour un premier témoignage. Alors, si le. Voilà un deuxième témoignage. Maintenant que j'ai activé, ça devrait marcher. Voilà. Là, voilà la petite fille dont je vous parlais, qui va arriver. Ah. Non, elle n'arrive pas.
Elle est active. Il faut mettre play.
Oui.
Mais je crois qu'elle l'avait fait. Voilà, maintenant, un an, zut.
J'ai pu un actif. Bon, écoutez, on en aura déjà eu un pour vous montrer de quoi, en gros, de quoi il s'agissait. Bon, il s'agit bien sûr d'une de ces choses dont on est capable à notre époque par rapport à l'image, et je ne le donnerai pas particulièrement comme un exemple de ce qu'il faut faire, mais c'était intéressant, ne serait-ce que par rapport à ce que ça montre au fond. Finalement, sur ce qu'est une photo. Les dessins Hibakusha, eux, sont d'une nature différente. Leur première caractéristique, c'est d'être réalisés par des hommes et des femmes ordinaires. Ils disent de façon sous-jacente qui sont les gens frappés par la bombe. Les gens qui sont nés par hasard à cette époque et à cet endroit, qui ne sont pas différents de nous. Cela amène l'empathie, l'universel, cela met les choses à hauteur d'homme, justement. Et ici, la maladresse du dessin est une force. Il est fait par un homme ordinaire, même s'il y a aussi de vrais artistes. Deuxième caractéristique, on n'est pas dans l'anonymat. Les auteurs ont des noms, ce sont des personnes, ils accompagnent les dessins de récits individuels, subjectifs, relatant un souvenir précis qui a marqué. On est dans l'intime. De plus, le dessin ne cherche pas à donner un point de vue global, à tout dire. Il fait la chronique de l'événement à travers un événement, un aspect singulier qui ne peut pas être oublié. Emblématique par rapport à l'expérience vécue. Ici, le détail est le symbole du tout. Et de dessin en dessin, on a une mosaïque de l'expérience atomique humaine, d'où l'impression de jamais vu. L'exposition a donc cherché à suivre, de dessin en dessin, la chronique de cette expérience. Les mots sont aussi importants ici que les images pour traduire ce qui est si difficile à faire partager. Les uns viennent au secours des autres et inversement. On sort donc de l'opposition entre les mots et les images. Et l'on rejoint, enfin, je le pense du moins, cette caractéristique de la peinture traditionnelle au Japon où le texte est souvent inséré dans l'image sans s'y opposer. Ces œuvres représentent donc un équilibre original entre deux choses. Ils remplacent la photo dans cette fonction dont Baudelaire disait qu'elle sauve de l'oubli les choses précieuses dont la forme va disparaître, qui demandent une place dans les archives de notre mémoire. Mais ce qu'ils saisissent aussi, ce sont des instants de vérité, comme dit Hannah Arendt, dans la modestie même de leur entreprise, ne montrant qu'un minuscule fragment de l'événement monstrueux. Ils ne sont que des exemples, des images, des instantanés ou des échantillons de l'enfer, comme dit Herbert Sandberg à propos de ses propres dessins de la Shoah. Si ces fragments nous parlent, c'est donc à travers leur simplicité et leur diversité. On apprend quelque chose par eux. On n'est plus dans l'inimaginable et pas non plus dans l'horreur, car le dessin cherche aussi à redonner dignité humaine à ceux qu'il représente, comme le souligne Naono Akiko à leur propos. D'où cette fonction de transmission. Dover, par exemple, en tirera un beau site éducatif. Alors, il n'est pas facile de cerner l'écho de ces dessins, mais on le repère clairement dans les années 70, époque par excellence du dessin sur Hiroshima. Par exemple, voilà un exemple, vous voyez, de dessin qui, justement, dans lequel la dignité humaine de la personne est rehaussée par le dessin. Oui, on repère clairement, je dis, dans les années 70, qui est une époque du dessin par excellence. Par exemple, dans le dessin animé de 78, montré dans l'exposition, Picadon de Kinoshita Renzo et Sayoko. Et ils expliquent leur film ainsi. Montrer l'instant où la bombe est tombée par le biais d'un documentaire était impossible. Mais le dessin animé a permis de le faire. Cette question était un grand problème. Ici aussi, le dessin tente de faire voir ce que la photo ne peut montrer. De plus, le graphisme se rapproche du dessin d'enfant. Et voilà quelques plans, vous voyez, de ce dessin animé. Plusieurs plans font écho directement à des dessins de Hibakusha. Cela révèle la valeur un peu emblématique de cette forme d'expression, ressentie comme un mode adéquat de réaction à la bombe. Et le livre pour enfants, Hiroshima no Pika, de Maruki Iri et Toshiko, est aussi un écho. Il cite explicitement certains dessins d'Hibakusha, simplifie le graphisme. Son souci au niveau de la transmission est voisin. Dans ces deux cas, comme aussi dans le manga Gen Hiroshima de Nakazawa Keiji, l'œuvre est centrée sur des gens ordinaires. Une autre veine très intéressante que propose l'exposition, c'est celle qui cherche à recréer un monde disparu. Avec les dessins de l'appel de 76 sur l'Hiroshima d'avant la bombe, mais aussi avec le très beau dessin animé de Katabuchi Sunao dans un recoin de ce monde, donc que les archives ont projeté 5 fois en parallèle. Et donc, Katabuchi nous a fait la joie de venir en parler il y a quelques jours. Il a réuni une étonnante archive à propos pour faire ce dessin animé. Malgré la différence avec les dessins des Hibakusha, le but est voisin. Non pas la recherche d'authenticité, mais le désir de partager, de s'immerger dans le quotidien disparu des gens ordinaires qui ont vécu Hiroshima. Ainsi, dans une simple rue d'Hiroshima, comme celle que vous voyez là, devenue rue fantôme par la suite, il retrouve les personnes qui l'habitaient. Par exemple, vous voyez sur la droite le patron de la boutique en train de parler avec deux femmes. Alors, Katabuchi était capable d'expliquer qui était cette personne, de la même manière que celui qui est en face du grand magasin qui est au fond, à l'entrée de la porte. Et plus émouvant encore, ce coiffeur, sa femme, les deux enfants. Il nous montrait les photos de ces personnes parallèlement. Alors, il était capable de retracer des pans de l'histoire de ces gens, n'est-ce pas ? Cela ne se voit pas, bien entendu, dans le film, mais en même temps, c'est capital dans sa construction à cause de la proximité avec les gens. La vie, dit Katabuchi, n'est que dans le détail du quotidien. Et partant de la photo, il réalise par le dessin ce qu'aucune prise de vue en direct ne peut réaliser, c'est-à-dire mettre en mouvement l'empreinte de la réalité du passé et les personnes disparues. Pourquoi ce besoin d'image ? Alors, c'est à la fois parce que l'expérience folle qu'elle raconte est celle d'humains ordinaires, et en même temps parce que le récit des témoins défie la capacité à imaginer, que l'image apparaît. Elle surgit, dit Georges Didier Huberman, là où la réflexion semble impossible, ou du moins en arrêt, stupéfaite, stupéfiée, là pourtant où une mémoire est nécessaire. Sa fonction est donc d'enregistrer et en même temps d'aider à imaginer. Deux auteurs, et non des moindres, Hoe Kenzaburo et Günther Anders, soulignent l'importance de l'imagination à l'ère atomique. C'est le titre d'un des essais d'Hoe Kenzaburo. Hoe rédige son mémoire à l'université sur l'imagination chez Sartre. Il se réfère très souvent aussi à la célèbre définition que donne Gaston Bachelard de l'imagination dans L'air et les songes, qu'on a tous commenté lorsqu'on enseignait en classe terminale. On veut toujours que l'imagination soit la faculté de former des images, or elle est plutôt la faculté de déformer les images fournies par la perception. Elle est surtout la faculté de nous libérer des images premières, de changer les images. Alors, Hoe replace cette conception dans le contexte de la mémoire et de la transmission. Il souhaite que les jeunes générations aient de l'imagination. Il ajoute qu'imaginer n'est pas accepter l'image de l'autre, mais créer notre propre image et plus précisément réformer l'imagination qui nous a été donnée. Transmettre, c'est donc donner à imaginer, aider à former chez ceux qui sont dans l'oubli une imagination personnelle. Alors c'est ici que le rôle du témoin est important. La mémoire collective, laissée à elle seule, se fige facilement. Ces images deviennent des clichés dont le sens vivant n'apparaît plus, d'où la difficulté de la transmission, à moins que l'image transmise ne soit réappropriée, réformée pour acquérir du sens. Cela fait penser à Rhapsody en août, de Kurosawa Akira. Comme Hoe, il s'intéresse à la transmission, au rapport entre mémoire individuelle et collective, au rapport entre la mémoire et les générations, et surtout à la question de savoir comment une génération peut ne pas être simplement dépositaire passive des souvenirs d'une autre, mais se les réapproprier de telle façon que ces souvenirs l'arment par rapport au futur. Le film de Kurosawa montre aussi à sa façon pourquoi on ne peut pas comprendre sans qu'on vous aide à imaginer. C'est aussi ce que représentent les dessins des Hibakusha. Ce n'est pas la vérité qui passe à travers eux, mais plutôt des instants de vérité, une mosaïque d'instants de vérité qui font entrevoir des parcelles. On peut dire, comme Hannah Arendt, qu'ils sont tout ce dont on dispose pour mettre de l'ordre dans ce chaos d'horreur.
Merci beaucoup. Merci Bernard. Je vais passer tout de suite la parole à Michael Luken, donc directeur du Centre d'études japonaises de l'INALCO, qui ne sait pas à quel point il a une énorme responsabilité, puisque pendant la préparation, chaque fois que je posais une question à Bernard ou à Sylviane, il me disait « Ah, Michael Luken saura répondre ».
Je suis bien embarrassé, là.
C'est vrai.
Et je suis peut-être... Merci beaucoup pour... ces petits mots de présentation qui m'honorent, mais je suis d'autant plus gêné que, évidemment, je ne suis dans cette aventure que grâce à Bernard Esmin, qui a piloté ça depuis le début avec tout le petit groupe qu'il a réuni autour de lui, et notamment Roger Pignès, que je me réjouis de revoir tout à l'heure, s'il n'est pas déjà parmi nous. Je vais reprendre en fait un certain nombre d'éléments que Bernard Esmin a évoqué à l'instant, puisque je vais m'intéresser moi aussi à cette opposition entre photographie et dessin, photographie sur lesquelles j'ai beaucoup travaillé il y a une quinzaine d'années, et les dessins que, je dois dire, j'ai découverts grâce à ce projet, dessins qui, de prime abord, ne m'intéressaient pas beaucoup, à côté desquels j'étais passé sans véritablement les voir, de même qu'au fond, beaucoup de gens de notre génération, puisqu'on les découvre d'une certaine manière aujourd'hui. Et je dis non seulement cela en ce qui concerne la France ou l'Europe, mais au Japon même. Ce qui est frappant, c'est de voir que tous ceux qui parmi vous sont allés au mémorial de Hiroshima ou de Nagasaki ont pu remarquer que ces dessins ont une place relativement mineure. Ils sont présents à la sortie de la salle d'exposition dans des classeurs, que l'on peut consulter si l'on en a envie, mais ils ne sont pas affichés en grand. Or, à partir de l'an prochain, ils vont être présents dès le début de l'exposition, puisque le directeur, M. Shiga, avec son équipe, a choisi de remplacer l'image actuelle qui est celle d'un nuage atomique, et juste derrière par celle d'une horloge arrêtée, d'une montre arrêtée, par la reproduction en très grand d'un de ces fameux dessins qui, du reste, que je vais montrer dans un instant. Donc il y a clairement un changement qui est en train de se produire et sur lequel il me semble très intéressant de réfléchir, parce qu'évidemment, la mémoire, tous les mémoriaux qui, depuis une vingtaine, trentaine d'années, se sont développés, que ce soit concernant Hiroshima et l'histoire japonaise, mais aussi concernant l'Holocauste, par exemple, ou d'autres événements de ce genre, ont mis la photographie fondamentalement au centre. Je reviens de Washington, j'étais au mémorial de l'Holocauste, qui l'un des plus étonnants et le plus fort, qui n'a rien à voir en ampleur, en puissance de conception, en moyens aussi, par rapport à celui de Paris. Et vous montez au troisième étage, dans un ascenseur qui brinque-balle un peu, je crois tout ça à dessin, à l'intérieur d'un bâtiment qui imite une sorte de stalag, les portes s'ouvrent, et en immense se trouve une photographie d'un charnier en train de tout fumant, manière de précipiter le spectateur exactement dans la position qui a pu être celle du GI américain découvrant les camps d'extermination, et en particulier en 1945. Donc la photographie, qui pourtant est perçue et fondamentalement scientifique, qui est un art mécanique, industriel, qui répond aux exigences de la science, qui est acceptée comme preuve dans le cadre de procès, par exemple, a eu une importance fondamentale dans le cadre de l'histoire, de la mémoire, pardon. Alors que, d'une certaine manière, on s'attendrait à lui voir un rôle évident au sein de l'histoire, ce qu'est là, elle a acquis de haute lutte, mais qu'est là. Pourquoi a-t-elle de la même manière un rôle si important au sein de la mémoire, si ce n'est que la mémoire, d'une certaine manière, s'est rabattue sur les outils de l'histoire ? Donc je crois que là, il y a un nœud qui est très intéressant à examinées. Je ne vais pas redire des choses que Bernard Esmin a précisées, donc je vais concentrer au fond ma réflexion sur une opposition entre deux types de mémoire, une proposition que je fais, une mémoire que j'appelle une mémoire mythique, représentée par les photographies, et une mémoire historique, dont les dessins seraient l'emblème. Une mémoire mythique qui tend à précipiter le drame dans une instantanéité absolue, ou au contraire, à l'étirer dans l'infini. Elle correspond, en tout cas en partie, à la position d'auteurs comme Gunther Anders, que citait tout à l'heure Eric Le Cerf, qui depuis les années 50 ont contribué à mettre l'accent sur la puissance inouïe des armes nucléaires, sur la menace d'extinction que celles-ci font peser sur l'humanité tout entière, sur l'irruption d'un âge atomique. La seconde, en revanche, que j'appelle historique, mémoire historique, s'exprime, me semble-t-il, particulièrement bien dans le cadre des dessins de survivants. Elle véhicule une vision moins absolue, moins abstraite, moins noir et blanc aussi, d'une certaine manière, du drame. Elle est colorée, elle est charnelle, elle est sanguinolente. Elle considère avant tout l'intensité et la rémanence de la douleur des victimes. Est-ce que quelqu'un peut m'aider sur pour mettre ça en grand format ?
Celle d'à côté.
Agrandir, voilà.
Voilà, merci. Voilà. Cette manière. C'est le dessin que vous voyez ici à droite qui, dorénavant, va figurer à l'entrée du mémorial de Hiroshima, en très grand. La photographie que je place donc en ce qui concerne, bien sûr, le corpus uniquement de la bombe atomique, en tout cas c'est un préalable, elle est l'art par excellence de l'âge atomique. Elle l'est, pourquoi ? Parce qu'elle l'a documenté, elle l'a anticipé, elle a été présente à toutes les étapes. C'est à partir de photographies que les Américains ont défini leur cible. C'est avec des photographies sous les yeux que les pilotes se sont dirigés sur les villes de Nagasaki et de Hiroshima. C'est toute une batterie de caméras très sophistiquées que les Américains avaient embarquées au sein d'appareils qui étaient juste à côté de l'appareil principal larguant la bombe. Les appareils n'ont pas bien marché et les photographies, les films ont raté pour l'essentiel. Enfin, il y avait tout un dispositif qui avait été mis en place, et bien sûr, la photographie a été, par excellence, couplée avec le film, qui, je considère là comme son extension, a servi à vérifier, à valider, à examiner les effets de la bombe. Donc, à toutes les étapes, elle est présente, et bien sûr, l'accroissement extraordinaire de la vitesse que demandait la bombe atomique a généré un travail, une recherche considérable aussi sur les instruments photographiques. Les photographies de Hiroshima, cette fois de par ce qu'elles montrent, me semble-t-il, vont dans le sens de ce que j'appelle une mémoire mythique qui soit étire l'événement à l'infini, soit au contraire le fige, le gèle dans une instantanéité inouïe. Et bien évidemment, les panoramas vont dans le sens de la première catégorie. Quand on montre la ville détruite de Hiroshima ou Nagasaki, les images qu'on en retient sont toujours des images qui ne montrent que de la destruction. Il y a bien évidemment un endroit où ça s'arrête, il y a des limites, il y a des marges, mais ce qu'on reproduit, ce que l'on met en avant, ce sont toujours les images qui ne montrent que de la destruction. Ils ont donc une dimension infinie. Les champignons, toutes les champignons qui ont pu être représentés, diffusés dans les musées, mémoriaux, manuels scolaires, reportages télévisés, ont au contraire figer l'instant dans ce point d'exclamation hein, que formalisent ces apparitions de fumée. Elle montre l'instant du drame. Elle fige l'instant, donc conformément donc au programme de l'appareil photographique qui consiste à figer, à saisir un instant. Tous les panaches de fumée, toutes les montres arrêtées dont le rôle est si important, vous voyez ici à gauche la couverture du principal petit catalogue qui est vendu au musée de Hiroshima et ce depuis plus de 15 ans. Ces montres arrêtées vont évidemment dans le même sens et il y en a de nombreuses. Les photographies représentant les ombres portées, je crois, vont aussi dans le sens de la saisie d'un instant, où par conséquent, l'effet de la bombe et la technique mise en œuvre, celle de la photographie, convergent pour réaliser ces images. La question de l'ombre, ici, accentue l'effet de convergence. De fait, beaucoup de témoins ont pu dire à propos de l'explosion atomique, « Ah, on aurait dit un flash atomique, la parenté, la proximité entre les deux phénomènes a été relevée dès le début. On pourrait ajouter les stèles, pour parler d'autres médiums, hein, qui ont jalonné les villes bombardées, puisque une des premières choses que les scientifiques ont tenté de faire, c'était de repérer l'endroit même où la bombe avait explosé, ou en tout cas l'hypocentre. Et par conséquent, là encore, on retrouve ce même travail de définition scientifique d'un lieu et de cristallisation dans un objet extrêmement modeste, ou en tout cas extrêmement ponctuel. Paradoxalement, donc, la photographie, technique née de la science, va, à travers ce que j'essaie là de décrire, cette ouverture vers l'infini, cette tension vers l'infini ou cette cristallisation radicale, aussi du côté d'un imaginaire apocalyptique. À l'inverse, les dessins qui ont été réalisés essentiellement à Hiroshima, de manière plus restreinte à Nagasaki, il y a environ 5000 images, hein, pour vous donner une idée du corpus. 95% représentent des corps. 95% représentent des corps quand, et Bernard Hesmin le disait tout à l'heure, on n'a qu'une trentaine, quarantaine d'images montrant des cadavres à Hiroshima en photographie, puisqu'il y a eu toute une série de censures qui ont empêché la diffusion de ces images. Du reste, c'est toujours le cas aujourd'hui. On y reviendra très rapidement en conclusion. 30% environ de ces images sont réalisées par des femmes, 70% par des hommes. Mais c'est un nombre tout à fait significatif. Les dessins sont clairement l'expression d'un traumatisme. Ils n'ont pas été faits d'emblée. Bernard Hesmin le disait tout à fait bien tout à l'heure. Ce qui domine chez eux, dans ces dessins, c'est la dimension charnelle, c'est l'expression de la douleur. Ils sont colorés. Ils sont souvent tournés vers l'expression d'une mort qui est accompagnée de souffrance. Autant dans la photographie, on a quelque chose qui montre un instant, autant les dessins montrent, me semble-t-il, davantage un processus. Quand on regarde de manière fine tous ces dessins que vous avez dans l'exposition à côté, on se rend bien compte qu'au fond, il y a plein de manières de mourir à Hiroshima et Nagasaki. On ne meurt pas juste brûlé par le flash et évaporé dans l'instant. Oui, il y a des gens comme ça qui sont morts, mais ça représente probablement une petite minorité, on estime à environ 20% le nombre de personnes qui ont été véritablement pulvérisées dans l'instant, soit environ 30 000 personnes sur 140 000 à Hiroshima. Toutes les autres sont mortes, bien sûr, elles avaient des brûlures, hein, mais elles ont été transpercées par les éclats de verre, les éclats de bois, elles se sont noyées, elles ont été asphyxiées, elles ont été écrasés par des bâtiments qui tombent. Bref, les causes sont multiples et je ne parle pas des décès à plus long terme dus aux radiations. Donc les causes sont multiples et je crois que ça c'est quelque chose que le dessin rend, dont le dessin rend compte, contrairement aux photographies. J'aimerais maintenant, et pour clore, faire un parallèle entre le fonctionnement aujourd'hui de la dissuasion nucléaire et ces deux mémoires dont je parle. Comme vous le savez, la dissuasion nucléaire, telle qu'elle s'est construite entre 1945 et le début des années 50, elle a pour comment dire, pivot le concept de l'homme au bord du gouffre, hein, de brinkmanship. C'est une expression qui est due au secrétaire d'État américain John Foster Dulles, qui a conceptualisé l'idée que si on développe une puissance nucléaire énorme et que celui en face en développe une aussi énorme, au final, on va être dans cet état de tension maximum qui fait que personne ne peut faire le premier pas parce qu'il sait que la rétorsion sera si grande que personne n'a intérêt à ce que les choses bougent. Il y a évidemment quelque chose d'assez rationnel, assez logique dans cette position, et en même temps, il y a quelque chose de complètement fou, il y a quelque chose de complètement irrationnel, tout comme a été à la fois très rationnel et complètement irrationnel le développement des deux côtés, côté russe comme du côté, enfin, côté soviétique comme du côté américain, d'un arsenal qui a permis à la fin des années 60 d'exterminer toute vie sur Terre et de geler l'intégralité de la Terre. Vous comprenez donc que ces deux qualités qui portent la dissuasion nucléaire avec d'une part une rationalité scientifique maximale et une irrationalité dans le tableau général, je dirais, va dans le sens de la photographie comme outil de mémoire mythique. Les photos de Hiroshima et Nagasaki et tous les médias connexes sont de nature scientifique, mais elles jouent sur le saisissement et l'éclipse du raisonnement. Elles relèvent d'une pensée à la fois scientifique et irrationnelle. Photographies qui sont par essence, me semble-t-il, des déjections de la métaphysique. Je reprends ici en substance ce que dit un critique japonais, Taki Koji, pour qui l'image photographique, bien que fragmentaire par nature, n'est telle qu'elle est que parce qu'il y a derrière le projet de saisir l'intégralité, la totalité du monde. À l'inverse, les dessins de Hiroshima parlent de la réalité du ressenti individuel. Il y a dans leur maladresse, dans leur diversité technique, l'expression d'une rationalité matérialiste, strictement humaine, ou qui redescend à un plan humain, comme disait tout à l'heure Bernard Esmin, sont l'expression d'une mémoire qui n'ouvre pas sur un absolu. Ils ne sont pas l'expression d'une quête métaphysique. Ils témoignent de souffrances concrètes, locales, référencées, permettent une forme de catharsis, sans fioriture, avec les moyens du bord. Ils pointent vers la mort, mais ils sont pleins de vie. Et de ce point de vue, ils n'ont rien à voir avec la position de l'homme au bord du gouffre qui pointe vers la mort et pointe vers la mort d'une manière redoublée. Alors que dans la photographie, il y a une logique de saisissement qui s'accorde sur le fond, me semble-t-il, avec la pensée nucléaire dans sa perspective contemporaine de la dissuasion, les dessins relèvent d'une logique du dessaisissement, de l'épanchement, du lâcher-prise qui va dans le sens du désarmement et de la démilitarisation. Ceci dit, et je terminerai là-dessus, même si cette réflexion que j'ai menée depuis deux ans grâce à Bernard Esmin m'amène à cette conclusion, je remarque malgré tout que les photographies des victimes de Hiroshima et Nagasaki restent aujourd'hui encore complètement marginalisées, elles ne sont jamais diffusées. Or, il me semble que l'on pourrait, bien que la photographie et la bombe nucléaire, d'une certaine manière, convergent en termes de mouvement, de rapport à la technique, et plus largement à certaines formes de métaphysique, on peut combattre comment dire, le mal par le mal, et on pourrait, à travers la photographie, notamment des victimes de ces deux catastrophes, changer quand même la perception que l'on a aujourd'hui de ces catastrophes qui sont finalement extrêmement déshumanisées. Je vous remercie.
C'est le premier intermède. C'est le premier. Qu'est-ce qu'on fait là, le premier intermède?
Oui, oui, on va faire le premier intermède.
D'accord.
On vous propose de passer tout de suite au premier intermède. Les intervenants restent ici. On aura un moment de débat, peut-être après la deuxième table.
On va laisser Paula venir s'asseoir ici. Et nous, on va aller dans la salle.
Bien sûr.
Qui est comédienne et chanteuse, qui a travaillé dans le passé, par exemple, avec le groupe le Clio, le Centre de littérature orale, qui est un centre qui retravaille sur l'art du conte et du récit. Donc Paula Mesuré va nous lire quelques poèmes de deux poètes, Hibakusha, Kurehara Sadako et Toge Sankichi. Kurehara Sadako, tous les deux donc sont des Hibakusha. Toge Sankichi est mort relativement vite, au début des années 50, des souffrances bien entendu infligées par le bombardement. Kurehara Sadako a vécu nettement plus longtemps. Je crois que Paula a retenu 4 poèmes de Toge Sankichi et un poème de Kurehara Sadako. Et c'était pour vous donner un peu une image de cette étonnante poésie qui est liée à Hiroshima.
Bonjour. Donc, les poèmes de Toge Sankichi sont traduits par Ono Masatsugu et Claude Mouchard. Comment oublier cet éclair? En un instant, 30 000 dans les rues disparaissent. Au fond de ténèbres qui s'écrasent, les cris de 50 000 s'éteignent. Fumée jaune se dissipant, en volute, déchirer les bâtiments, effondrer les ponts, les trains ont brûlé, bondé. Infini tas de tuiles, de pierres, restent calcinés de Hiroshima. Bientôt des peaux comme chiffons usagés pendent au bout de mains contre des poitrines, piétinant de la matière cérébrale écrasée, reins enveloppés de tissus brûlés, défilent des corps nus qui marchent en foule et pleurent. Corps sur le champ de manœuvre comme statuettes de gisot. La foule, entassée au bord du fleuve, rampant sur des radeaux attachés là, sous le soleil brûlant, se change au fil des heures en cadavres, dans le flamboiement qui pénètre le ciel du soir. Les endroits de la ville où mère et petit frère furent pris vivants sous les décombres se reflètent en brûlant. Au milieu d'excréments sur le sol de l'arsenal sont allongées des étudiantes rescapées, crâne dépouillé, moitié de corps rouge, écorché, yeux écrasés, ventre gonflé, et en ce grouillement où on ne sait qui est qui, je cherche la lumière du matin. Rien ne bouge plus. Dans la pestilence stagnante, rien que bruit de mouches volant contre des bassines en métal. Comment oublier ce silence qui occupait tout entière une ville de 300 000 habitants? Comment oublier dans ce calme l'espoir dont s'emplissaient à nous briser cœurs et âmes les orbites blancs de femmes et d'enfants qui ne sont jamais rentrés? Au poste de soins d'urgence. Vous qui pleurez, mais sans plus d'endroit d'où puissent venir des larmes, qui criez, mais sans plus de lèvres pour former des mots, qui cherchez à agripper, mais sans plus de peau sur les doigts pour saisir, vous, inondés de sang, d'une sueur huileuse de douleur et de lymphe, vos quatre membres se débattant, gonflés, réduits à un fil, vos yeux scintillants, blancs, blancs. Seuls les élastiques de vos culottes, tenant de vos ventres enflés, bleuis, même si de l'exposition de vos parties intimes vous voudriez avoir honte, vous n'êtes plus en état. Et qui pourrait croire qu'un instant plus tôt, vous étiez de jolies lycéennes, émergeant des flammes qui étincelaient obscurément dans Hiroshima brûlé et pourri, vous qui n'étiez plus vous-même, vous sortiez en sautant, en rampant, l'une après l'autre, jusqu'à ce terrain en friche, vous ensevelissiez vos têtes dénudées, sauf quelques touffes dans une poussière d'agonie. Pourquoi vous faut-il souffrir à ce point ? Pourquoi vous faut-il souffrir à ce point ? Pour quelle raison ? Pour quelle raison ? Combien désespéré de votre état ? Combien loin de l'humain ? Sous quelle apparence vous avez été rejeté ? Vous ne le savez plus. Simplement, vous pensez à vos pères, mères, petits frères, petites sœurs, tel que ce matin. Est-ce qu'aucun d'eux vous reconnaîtrait maintenant ? Et aux maisons où vous dormiez, vous éveilliez, mangiez, en un instant les fleurs des haies furent arrachées, et qui sait la trace de leurs cendres ? Pensant, pensant tandis que vous êtes étendu parmi vos semblables qui, l'une après l'autre, cessent de bouger, pensant au temps où vous étiez fille, fille d'humain. Des visages que je ne reconnais pas me regardent, et dans un monde perdu, un temps perdu, dans un entrepôt obscur, une lumière, ni nuit ni jour, tombe par le treillis en bois tordu d'une fenêtre. Les uns sur les autres, visages qui furent des faces, qui au sommet d'humains reflétaient les joies et chagrins de la vie comme de l'eau scintillante. Ah, maintenant, débris de chair pourrie coulante. Seuls les yeux flambent. Visage, sceau de l'humain arraché à terre, resté là sur le sol en ciment, gonflé, bleui, doux, lourd, rond ces objets, cloués par quelque force, fixés sans autre mouvement qu'un éclat blanc d'entre les chairs déchirées, regarde chacun de mes pas. Yeux collants à mon dos, mon épaule, mon bras, pourquoi me regarder ainsi, à ma poursuite, m'encerclant de tous côtés, me lançant de minces rayons blancs, m'arrivant, yeux, d'au-devant, de si loin, de ce coin obscur, de juste ici, à mes pieds, ah, debout, vêtu, front intact et né malgré tout, sans dommage, je marche, être humain, des yeux, se fixe sur moi, me transperce. Du sol chaud, des murs oppressants, d'entre les puissants piliers qui soutiennent le plafond caverneux, des yeux qui apparaissent, 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 ne s'effaçant pas, collés à moi, fixés pour toujours sur moi, de mon dos à ma poitrine, de mes aisselles à mes épaules, moi qui entre dans l'obscurité cherchant celle qui ce matin encore était ma petite sœur, ma pauvre petite sœur. Cieux, sur le béton. Sur le béton enseveli entre les murailles d'un tapis en paille suintant d'urine, on ne sait d'où. Une joue est près de se détruire. Loin de pommade, sécrétion, sang, cendre, un masque de mort. Un globe oculaire qui bouge, verse des gouttes d'un liquide clair d'entre des lèvres révulsées, des dents mouchetées de rouge, appelle, comme le mordant, mon nom. Sadako Kuriara, la cité ravagée par les flammes. Cité de décombres ravagée par les flammes, le vent souffle sans repos, l'automne se creuse, les toits de fer blanc brûlés des baraques, la douche de fin d'automne les trempe et passe froidement. Parmi les décombres ravagés par les flammes, ici et là, des cabanes tiennent debout, de la fumée s'élève. Son vermillon éclatant, comme toujours, la pompe à incendie est couchée sur le flanc, dans une rue ravagée par les flammes. Et les maisons où femmes, enfants, parents vécurent joyeusement, toutes ont été muées en décombres. Parmi les décombres ravagés par les flammes, les derniers moments de milliers de gens, quelle tristesse! De milliers de gens, de dizaines de milliers, perdus. Le moment de l'explosion, recouvrant toutes les peines, la pluie d'automne tombe sur la cité de décombres, ravagée par les flammes, et dans un jardin ravagé par les flammes, le muguet éclot en silence. Je ne vois personne. Parmi les décombres ravagés par les flammes, les belles de jour fleurissent, humides de rosée. Oui, l'hiver approche. Parmi les décombres ravagés par les flammes, une moutarde des champs solitaires répand ses feuilles abondantes. L'écorce des arbres, ravagée par les flammes, est noire de suie. De leurs branches surgissent des pousses. Et le bidonville dans la zone, ravagée par les flammes, de chaque baraque à son jardin, déjà vert. Et la pluie d'automne s'arrête, la pluie d'automne tombe, le froid de l'hiver est venu. Dans les baraques de la zone, ravagée par les flammes, dans les baraques, des feux de copeaux brûlent, rouges, rouges, des familles sont rassemblées pour souper, des morceaux de métal brûlés. Couleur rouille, jonche le sol. Les rayons du soleil couchant déclinent sur la cité des décombres. Cité des décombres ravagée par les flammes. La nuit, j'entends les cris des morts. Cité des décombres ravagée par les flammes, marche seule. Et tu n'es pas seule. Le bosquet de pins où autrefois le vent bruissait. Seul les troncs demeurent. Brûlé, noir. Rendez le père, rendez la mère, rendez les vieux, rendez les enfants, rendez moi-même et ceux qui me sont liés. Les humains, rendez-les. Tandis qu'il existe des humains, rendez-les. Un monde, des humains, la paix qui ne puisse se détruire, rendez-la. Rendez le père, rendez la mère, rendez les vieux, rendez les enfants et ceux qui me sont liés. Tant qu'il existe des humains, un monde, des humains, la paix qui ne puisse se détruire, rendez-la. rendez la paix.
Je vous remercie.
Maintenant, nous donnons la parole à Max Kohn, qui est psychanalyste, membre de l'espace analytique et ancien maître de conférence à l'université de Paris 7, et qui a écrit de nombreux articles sur la question d'Hiroshima, et qui a contribué également au catalogue de cette exposition.
Bon. Alors, bon, je voudrais d'abord remercier chaleureusement Bernard Esmin, René Pignès et les autres responsables de cette exposition et de la publication de ce catalogue, ainsi que les archives nationales pour avoir accueilli cette exposition qui, à mon sens, est essentielle par rapport à la mémoire, non seulement des Ibakusha, mais de notre qualité d'être vivant et parlant. J'avais eu l'occasion, c'était en 2002, à la fin de la vie de Jean Toussaint de Santi, qui a été également le professeur de Bernard Esmin, professeur de philosophie, et le mien, au cours de discussions, de conversations que nous avions, d'aborder cette question d'Hiroshima, parce que j'avais lu quelques ouvrages de Robert J. Lifton, que j'ai rencontré ensuite aux États-Unis, et que ce qui m'avait frappé, c'était ce qu'il disait sur l'absence totale d'élaboration au niveau psychologique sur cet événement. Pour Jean Toussaint de Santi, Hiroshima, c'est un crime contre la vie. C'est de la plus extrême gravité et le mot est faible. D'ailleurs, même les mots des poésies que nous avons entendus, si forts, sont faibles. Alors, j'ai intitulé cette intervention « L'après-coup d'Hiroshima et Nagasaki, corps et loque ». Alors, je vous explique un peu pourquoi. Quand j'ai rédigé ma contribution au catalogue, c'était sur des dessins que vous m'aviez envoyés, enfin, vous m'aviez donné plutôt. Et donc, j'avais vu l'exposition, et puis j'ai lu le catalogue, et puis alors là, il m'est venu un certain nombre d'idées. Donc, c'est un peu équivoque, c'est après coup d'Hiroshima et Nagasaki au niveau historique, mais aussi après coup de tout ça. Cette exposition, c'est encore tout autre chose que le catalogue, hein. Qu'est-ce qui se dessine là? De quoi s'agit-il? Le trait du dessin redonne de la place à l'humain, aux différents corps. C'est du texte que l'on peut voir aussi dans les dessins, comme cela se fait dans la culture japonaise. Il s'agit d'une réappropriation du corps humain, vivant et parlant. Les corps se dessinent, les corps dessinent. L'intuition que j'ai eue après avoir lu le catalogue et après avoir vu l'exposition, c'est une opposition qui s'est imposée à moi entre ce que j'appellerais de l'amalgame des corps où il n'y a plus de corps, d'une certaine manière. Il y a des fusions de corps. Il y a de l'amalgame. Voilà mon intuition. Alors, par opposition, mais est-ce que le mot d'opposition convient? Je dirais peut-être par contraste avec ce qui caractérise pour la psychanalyste Annemie Stern le corps des déportés dans le cadre de la Shoah, ce qu'elle appelle la loque. Une loque humaine. Est-ce qu'à Hiroshima, ce sont des loques? Je ne pense pas. Je pense que c'est tout autre chose, de beaucoup plus compliqué à penser, du côté de l'amalgame. Donc je crois que cette exposition, le catalogue et ce colloque, redonnent de la place. Alors là, si je ne vois plus rien, déjà que je ne vois pas clair, bon, c'est une sombre histoire. Ça redonne de la place à des corps humains dans ces dessins. C'est pour ça que j'ai dit, c'est même pas sûr qu'il faille dire, je ne sais pas trop comment le formuler, que ce sont des dessinateurs qui dessinent des dessins. Il y a des corps qui se dessinent, il y a des corps qui dessinent. Alors, ce qui a eu lieu à Hiroshima et Nagasaki, c'est irréversible. Ça peut encore avoir lieu. René Pignès, le soir de l'inauguration de l'exposition, a repris cette citation de Primo Levi qui figure en exergue dans le catalogue de l'exposition. Nous avons peigné la chevelure des comètes, déchiré les secrets, déchiffré, joli lapsus, quelque chose qui s'est déchiré, oui, à Hiroshima. Déchiffrer les secrets de la Genèse, fouler les sables de la Lune, construit Auschwitz, détruit Hiroshima. Tu vois, nous ne sommes pas restés inactifs. Alors, est-ce qu'il y a de la morbidité quand on visite cette exposition, quand on lit le catalogue, ou quand on assiste à ce colloque? Il y a des moments qui sont très denses, très durs, mais moi, je ne ressens pas la moindre morbidité dans tout ça. Je n'ai strictement aucune jouissance à voir toute cette horreur. Je trouve que ce sont des actes d'être vivant et parlant et humain que nous voyons, y compris dans l'organisation même de tout ça. C'est un acte d'humanité, pas de voyeurisme. On se sent humain en face d'autres humains, malgré la puissance de l'anéantissement atomique dont l'homme est aujourd'hui capable. Mais alors le mystère reste épais. Sur le silence quasi total, sur les effets psychologiques dont je parlais tout à l'heure, d'Hiroshima en Occident, à quelques exceptions près, dont Robert J. Lifton. Mais aussi sur l'extrême légèreté avec laquelle on parle de la bombe atomique, comme si c'était un jeu, où il s'agit de savoir qui l'a ou pas. Politique et science en font un instrument de pouvoir. Ce que ça montre, c'est l'impuissance humaine, la plus extrême inconscience de ce qui se passe et de ce qui peut encore se passer avec la bombe atomique. Alors, je crois que c'est une expression de Bernard Esmain, l'immontrable des dessins. C'est, oui, c'est ça. J'ai voulu reprendre quelques autres dessins qui m'ont frappé dans le catalogue, que je n'avais pas vu de la même manière dans ceux que Bernard Esmain m'avait amenés. On en a vu un tout à l'heure. Un dessin sans titre montre l'extrémité fondue des doigts d'une personne morte instantanément qui brûlait. La main est orientée vers le ciel. Les doigts raccourcis et déformés. La flamme est bleue. Un liquide couleur d'encre claire s'écoule sur la paume et sur le sol. La main devait avoir caressé un enfant auparavant. J'ajouterai que cette main a peut-être eu une tendresse sensuelle, pourquoi pas sexuelle juste avant. Mais ça, c'est tout simplement impensable. Il n'y a aucune place pour la sexualité à Hiroshima. Des enfants naissent, mais c'est pas sexuel. C'est la vie qui continue malgré la bombe, sous la bombe. Les dessins de Miyuro Shizuko, sœur, est-ce que je vais m'en tirer, montre après 29 ans et surtout après 57 ans sa sœur au visage et aux mains rouges. Elle ne voit pas la même chose dans les deux dessins. Elle ne voit pas les morceaux de verre qui se sont plantés dans son visage à elle, qui dessine sa sœur. Un visage manque, le sien. Redonner un visage aux Ibakusha, leur en donner un même à la limite. Le dessin d'Ogawa Sagami, rouge, vif comme des diables qu'on a vu aussi, ce sont des corps de personnes qui ont fui dans une citerne anti-incendie. Ils sont tout rouges, des corps noirs en dehors de la cuve. Il ne reste que de la cendre sur des os blancs. Les corps de 50 cm sont ceux d'enfants. Il n'y a plus de différence entre enfants et adultes. À Hiroshima, la généalogie n'a aucune place. Et pourtant, nous savons que l'irradiation a tué. Transmission de l'irradiation dans la généalogie, sur laquelle Alexandra Bergino a insisté aussi dans un article sur cette exposition. Un corps sans histoire, sans généalogie, c'est pas un corps. Il n'y a pas de généalogie à Hiroshima. Peut-on dessiner la fusion des corps, cet amalgame qui caractérise un des effets de la bombe atomique? Jean Toussaint de Santy a raison, la bombe atomique est une manifestation du pouvoir, une expérience scientifique. C'était très clair dans la discussion, une manifestation du pouvoir américain à cette époque. Pour lui, ce n'était pas nécessaire d'envoyer cette bombe, la guerre pouvait se finir autrement. Chaque année, on repose la question le 6 août, et il y a des débats et des débats à n'en plus finir là-dessus. Mais c'était sa position, et bon, je la redonne. Quitte à évidemment ne pas être d'accord avec elle pour certains. Mais dessiner, c'est quoi en l'occurrence? C'est sortir de la fusion des corps, de l'indistinction, de l'indifférenciation. Nous ne voyons pas des morceaux de corps démembrés, écartelés, qui sont une manifestation du pouvoir, ce dont parle Foucault dans toute l'histoire des sévices. Que le pouvoir inflige pour montrer son pouvoir, etc. Nous voyons des corps anéantis dans leur singularité de corps parlant et vivant. Tout est en fusion dans chacun d'entre eux et avec les autres corps. Dessiner, c'est montrer cela, séparer, différencier, remettre les choses dans du texte. Si on prend le dessin d'On, brûlé par l'éclair, soufflé par l'explosion, il n'y a aucune forme repérable de corps. Ça ressemble à des volutes de fumée et le texte dit « J'étais en train de rendre mon rapport lorsqu'il y a eu un éclair de lumière comme si j'étais au centre d'un feu. Quoi ? Eus-je à peine eu le temps de prononcer ? Que mon corps fut soufflé par l'explosion. C'est à ce moment-là que j'ai dû perdre connaissance. Lorsque je revins à moi, j'étais au sous-sol portant dans mes bras un enfant mort que je ne connaissais pas. Flash, boum, éclair, explosion, pika, donne. » Dans les Genbaku Nozu, excusez-moi pour l'accent, paravent de Maruki et Toshiko, on peut lire « Il y a eu un éclair et un boom ». Non, il n'y a eu aucun boom à Hiroshima. Cela a dû être trop fort. Seulement un éclair, pika. Les gens appellent cette chose inconnue pika. Pika et don et don. Deux mots pour dire l'éclair et l'explosion. Un minimum de langage pour parler de ce qui se passe. Il n'y a pas de parole possible à Hiroshima, même pas le mot « donne », l'explosion. Il reste un seul mot, « pika ». L'anéantissement est total de toute capacité de penser, de parler, de se représenter. Les associations qui viennent ne correspondent à aucune représentation disponible dans le psychisme de l'Ibakusha, qui se dit certainement pas « je suis un Ibakusha ». Dessiner, l'éclair est impossible. Dessiner l'explosion aussi, dessiner des amalgames de corps qui vient ensuite non plus. En tout cas, pas immédiatement. C'est pour ça qu'il a fallu du temps, sauf certaines exceptions, pour que ces dessins soient faits. Ça vient après, plus ou moins longtemps après. Ce n'est pas un spectacle, ni une future exposition de dessins. C'est la bombe atomique jetée froidement pour voir ce que ça fait et montrer qu'on est très fort, plus fort que l'autre, la folie humaine dans toute sa splendeur, le pouvoir pour le pouvoir, quitte à détruire la vie, pas les corps humains. Et d'ailleurs, De Centime disait, mais ils n'ont pas visé les Japonais, ils s'en foutaient des Japonais. Redessiner des corps humains, c'est redonner une forme humaine à cet irreprésentable. Ça ne correspond à aucune sensation dans notre chair. C'est ça le problème aussi. Ce n'est pas seulement de se représenter Hiroshima, parce que ça, je crois que c'est carrément irreprésentable, mais c'est de sentir ce qui a bien pu se passer là. Ça correspond à rien du tout pour nous. Parce qu'il n'y a pas de chair, il y a des corps en fusion. Comment on peut se représenter ça? On peut se représenter une loque, parce qu'on en a rencontré, parce que de temps en temps on peut l'être, qu'on s'en sort ou pas. Mais de quoi s'agit-il là? C'est le langage lui-même qui est anéanti. Les corps fusionnent dans l'amalgame le plus complet, sans aucune généalogie repérable. On ne sait plus qui est qui et qui vient de qui descend de qui. Comme le dit Bernard Esmain à la suite de John Dower, c'est le détail qui compte, la partie pour le tout, à l'origine du sentiment de vivacité, et les parcelles s'ajoutent les unes aux autres sans jamais donner un point de vue global. Et ça, c'est vrai. Pour Herbert Zandberg, dans la Shoah, à propos de celle-ci, les représentations ne montrent qu'un fragment de l'événement. C'est ce que dit d'ailleurs Raoul Hilberg, l'écrivain. Personne ne pouvait se représenter la totalité du processus de destruction et d'administration de la mort. Il faut avoir vraiment lu son livre avant ou pendant. C'est impossible. Qui peut avoir une idée globale comme celle de Raoul Hilberg en tant qu'historien? Pour reprendre l'expression de John Hersey, les dessins montrent ce qui avait brûlé dans l'esprit des survivants, vous l'avez repris tout à l'heure, réminiscence du drame qui s'exprime à la manière d'une impulsion. Mais alors comment on peut saisir ce qui a brûlé dans le psychisme? Parce que ça continue à brûler. C'est ça qu'on appelle les bakusha. Et on ne sait pas ce qui brûle exactement. Il y a un trou dans le psychisme du sujet qui ne peut pas se dire « c'est une bombe atomique ». Les corps sont amalgamés. Je me rends compte de ce qui se passe. C'est totalement inanalysable sur le coup. Le feu ne s'analyse pas, il brûle. Bernard Esmain nous dit que les dessins des Ibakusha sont solidaires de l'imagination à l'âge atomique. Ils ouvrent un horizon en résistant et en sabotant le monde nucléaire, juste avec un crayon, du papier, des doigts, les mêmes doigts qui appuient sur le bouton nucléaire. C'est un défi et une confiance dans l'humain, capable de voir ce que ces dessins dessinent, des corps vivants et parlants qui cherchent à se singulariser dans la culture japonaise qui est la leur, mais qui s'adresse aussi à l'autre. Sentir Hiroshima, c'est ça le problème, pas se le représenter. Personne ne l'a vraiment senti, sauf les Ibakusha. Ils n'ont pas pu parler, ils ont dessiné. Ce sont des formes de corps, des mouvements de corps. En 1945, un survivant écrit un graffiti sur une planche. Ici se trouvait une ville qui portait un nom, détritus et cendres, Amen. Et on prit la place, que nul n'y touche, pour que ce cadre désolé révèle ce que vous, Amen, vous vous êtes fait à vous-même. On est très loin de la loque. Pour conclure, je dirais ceci. Hiroshima, c'est bien un crime contre la vie. La loque parle encore à Auschwitz et après. À Hiroshima, c'est l'amalgame des corps, sans généalogie. La continuité de la vie est définitivement menacée.
Comme nous sommes un peu en retard, je propose que on écoute votre communication et ensuite on entendra le montage sonore que nous a préparé Guillaume Loisillon et peut-être on réservera la discussion à la période de table ronde tout à l'heure pour essayer un petit peu de rattraper le retard. Alors je donne la parole à Marie Delas-Pruvost. Alors, qui va nous parler du dessin animé japonais, enfin, des Ibakusha dans le dessin animé japonais.
Je vais essayer de... Oui.